cats are sitting to Aston Martin. Switching lanes with three games on the way to Carbage. You niggas starving. Me and GD about to shift the market and flip and hit your squadron. Yo, you know that shit that you be spitting don't sound tight. You recognize when we be coming through your town, right? Hit them up, split them up with the pound twice. Terror squad getting dirty underground life.
Fuck rapping, I said what I had to say. Ooh. Y'all niggas get blasted away, then pass away.
Yeah.
The feds wanna put my ass away. Straight haters, but I'm the greatest like Cassius Clay. Sipping on the glasses, eh? Earlier took your girl to a matinee.
And got that ass today, what, blah, blah, blah.
Y'all niggas rapping gay, need to go back and pray. CLK, black and gray. Woo. And y'all niggas don't really want the gas to spray. You might get hit this time when I spit this rhyme. I'm gonna shit this time like diarrhea. Keep the nine near. You fucking with Party Artie the Pioneer.
GD.
My crew behind me. Strip clubs where you can find me. About to take over like Giuliani. Against Illuminati since I was using bodies to when I was a youth and rowdy. Then I learned to use the shot.
The Bronx to Harlem. You can catch us in the Aston Martin.
Et ciao, bonjour, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans pub ni hiérarchie, pour l'activité du deuxième samedi du mois, déplier le chiffon. Afin d'appeler de vos voeux le printemps de l'éternel café, pressez peut-être plutôt quelques agrumes et installez-vous confortablement. Ce matin, c'est entre les mousses, les écorces, les lichens et les feuilles mortes qui se ramassent à la pelle que nous vous donnons rendez-vous. N'avez-vous jamais senti la quiétude si particulière que procurent les parfums de la forêt? Le bruit feutré de vos pas sur le humus, ce sol forestier meuble, mémoire vivante des végétaux d'hier venus se fondre dans ceux d'avant-hier. Eh bien, sachez que vous marchez alors sur une histoire au temps très long. Une simple petite feuille de chêne peut prendre 2 ans pour devenir un fragment du sol. Nous vous invitions il y a quelques émissions à aller vers votre prochain d'outre-Rhin. Eh bien, sachez que les romantiques allemands ont inventé un mot pour décrire l'état de solitude en forêt. Oui, spécifiquement ce sentiment, la dénommée Waldeinsamkeit. Nous reparlerons de romantisme plus tard dans cette émission. Oui, vous l'aurez compris ce matin, ô toi bûcheron, arrête une seconde ta hache, il sera question de forêt. Avec en plateau l'auteur d'une interview et d'un article conte sur le sujet. Enfin, avant de présenter mon invité, si vous êtes à charge de jeunes âmes, je ne peux que vous recommander le conte, un autre conte, celui de Marlène Jobert, L'arbre qui pleure, de quoi éveiller vos enfants tant à la sensibilité de l'arbre qu'à la musique de Mozart. Sauver la forêt, oui, mais en musique. Et pour une nouvelle paire d'oreilles, avant d'accueillir notre invité, j'ai mentionné en tout début d'émission l'activité de ce samedi matin, déplier le chiffon. Oui, le chiffon, la seule feuille de chou sans actionnaire de Paris et sa banlieue, ou un trimestriel d'actu tiède qui reste longtemps à l'ordre du jour. Et notre nouveau numéro de printemps a à cœur de vous présenter un état des lieux de la forêt en Île-de-France. Après les deux premiers chiffonniers venus témoigner de leur travail, poursuivons la visite des coulisses de la manufacture avec une paire de ses petites mains industrieuses, un homme de théâtre, vendeur à la criée, formateur à la prise de parole publique, entre autres. Il signe donc 2 papiers dans notre numéro de printemps, un conte en forêt de Fontainebleau et l'interview de Hervé Le Boulaire, aujourd'hui conseiller technique du domaine de Chantilly. Vous avez peut-être déjà entendu sa voix dans les rues de Paris, haranguant le chaland comme personne pour vous proposer notre journal. Il est une des voix tonitruantes du chiffon. Bonjour Valentin, merci d'être avec nous. Pouvez-vous achever cette présentation très succincte? On reviendra sur votre parcours dans un instant.
Bonjour Paul, bonjour à toutes et à tous. Il faut que je me présente, c'est ça? Alors, je pense que c'est important de dire d'où je parle avant d'introduire mon article. Je suis né en Île-de-France, en banlieue, mais pas la banlieue chaude, plutôt la banlieue douce, puisque je suis né à Versailles et j'ai grandi là-bas. Que dire après ça? Eh bien que j'ai le parcours classique d'un petit bourgeois, puisque donc j'ai fait mes classes à Versailles. Après, J'ai suivi le mouvement en faisant une prépa HEC, puis j'ai intégré l'école supérieure de commerce de Paris. Après ça, j'ai vendu des tables basses à 20 000 euros. J'ai participé aux premières publicités pour les SUV en France. J'ai fait un stage dans une agence de marketing à New York où on faisait des publicités sur Facebook. Enfin, voilà. Puis j'ai bossé dans une start-up à Paris avant de m'effondrer à 25 ans d'une dépression. Je ne sais pas pourquoi, hein, parce que toutes ces activités étaient quand même pleines de sens et puis physiquement très épanouissantes, hein, puisque travailler toute la journée derrière un ordinateur, c'est quand même magnifique à 24 ou 25 ans. Voilà, et ce qui m'a amené au théâtre et puis à des activités diverses et variées, comme le journalisme avec le chiffon.
Donc, vous auriez pu arborer tous les attributs de la réussite réussie, hein, Lamborghini, yacht et compagnie, et vous êtes avec nous ce matin et vous imputeriez ce changement de braquet à votre dépression des 25 ans ?
Bah oui, ça a été un signal du corps et de l'esprit, je pense, qui disait mais qu'est-ce que tu fais ? Ça n'a absolument aucun sens. Et en allant faire du théâtre, bah déjà je suis sorti de ma petite bulle dorée, ça m'a permis aussi de trouver des véritables sources d'inspiration par les textes, et puis j'ai trouvé aussi une éthique du travail qui est un peu différente de celle du monde de l'entreprise, avec notre professeur de théâtre, Jean-Laurent Cochet, hein, qui a été le prof de Fabrice Lucchini aussi, et qui, quand on avait travaillé pendant 6 mois une scène qu'on passait sur le plateau, il nous faisait des compliments de genre en disant « Ah, dans 10 ans, ce sera peut-être bien ». Voilà, donc ça pousse à autre chose qu'au quick and dirty, comme on dit dans le monde de l'entreprise.
Et rapide et sale.
Voilà, fais-moi ça rapidos, rapido presto. Et de fil en aiguille, ben, je me suis retrouvé avec les camarades du chiffon pour un trimestriel papier qui permet d'avoir un peu de recul et un rythme un peu différent de celui qu'on subit toute la journée.
Eh bien, vous m'amenez à une question que j'allais vous poser plus tard, mais est-ce que vous pouvez présenter le chiffon, peut-être, vous qui êtes...
Le chiffon, c'est un journal papier, hein, je le répète, c'est important, parce que c'est un objet physique.
On y tient.
C'est un trimestriel, donc on n'est pas dans de l'actualité, même si on s'occupe de ce qui se passe sur le territoire francilien, et on va faire des enquêtes, des reportages sur ce qui se passe autour de chez nous. Alors, on essaye de pas se concentrer sur les faits divers, mais plutôt sur les grands phénomènes, les grands mouvements qui structurent un petit peu ce territoire. Le Grand Paris, les projets techno-industriels autour de Paris-Saclay, des choses comme ça. Et tous les mouvements sociaux qui essayent de lutter contre le rouleau compresseur. C'est un peu l'esprit du chiffon. Et comme je disais, c'est assez plaisant d'avoir cet objet physique parce que on le distribue à la main, en manif ou dans des lieux amis. Et je pense que l'audio qu'on est en train de faire comme l'écrit, ça reste les deux médias qui permettent d'échapper à l'accélération technique continue qu'on est en train d'observer. Il y a une certaine légèreté de ces objets-là par rapport aux vidéos, même quand on est dans l'univers du digital où on va avoir des vidéos en haute définition qui sont des objets extrêmement lourds avec toutes les infrastructures cachées derrière.
Dans la présentation que vous m'aviez envoyée, alors je m'avance peut-être en employant le terme de repentance, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de repentance. Est-ce que votre adhésion au chiffon aujourd'hui, c'est un espèce de rachat, de, péchés d'hier presque.
Non, mais il y a pas de repentance dans le sens où on choisit pas de naître riche ou pauvre. Hein. On peut naître du bon ou du mauvais côté ou au milieu. Je pense surtout que ce qui est important, c'est de rester un petit peu curieux et ne pas s'enfermer. Dans un petit milieu, quel qu'il soit. Hein. Moi, j'ai donc eu la chance de m'ouvrir à d'autres personnes là où bon nombre de gens vont rester dans un groupe un peu étroit. Et c'est pas tellement une repentance, c'est juste que il m'apparaît que moi, j'ai baigné dans des idées, une idéologie et des mythes qui m'apparaissent pas tellement plus respectables que celles du Moyen-Âge, à savoir la croissance infinie, le PIB comme seule boussole, comme projet de société, et une certaine vision de l'histoire guidée par une unidimension qui est celle de l'économie reine. Je trouve j'accepte pas en fait cette espèce de fatalité, ce chemin tout tracé sans alternative qui est l'effacement véritablement du politique et de la volonté de la liberté en fait. Donc voilà, ça fait quelques années surtout que j'ai à cœur de mettre au jour ces bêtises quoi, ces bêtises qui sont que je trouve moi avilissantes quoi. Et enfermante.
Et au-delà de l'effondrement physique et psychique que vous décriviez, est-ce que cette épiphanie est passée par peut-être des rencontres, un moment de vie? Est-ce que vous vous souvenez, je ne vous demande pas le moment où toutes les étoiles se sont alignées, mais enfin, peut-être une rencontre qui a vraiment changé, peut-être un prof d'économie dissident ou...
Non, je pense que ça a commencé avec des lectures. Et je pense que la décroissance, donc le mensuel, m'a apporté pas mal de grains à moudre en fait, avec des réflexions assez profondes sur le système tel qu'on peut l'observer, plus ou moins d'ailleurs, hein, dans ses soubassements. Et ça m'a permis un petit peu de défaire un petit peu toutes ces idées, tous ces schémas de pensée ou ces habitudes dans lesquelles on est pris, mais pas seulement quand on est un petit bourgeois francilien comme moi, mais à vrai dire les corps et les esprits sont complètement prisonniers de tout ça, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, les imaginaires sont terriblement enfermés dans ce modèle très matérialiste et productiviste que je trouve, au-delà d'être vraiment enfermant, d'une pauvreté, d'une laideur terrible, quoi. C'est aussi un peu désespérant.
Et au sein de la faune de vos anciens collègues d'école de commerce, est-ce que vous avez eu quelques disciples? Est-ce que vous avez réussi à débrancher quelques esprits pour faire la métaphore?
Je suis pas un gourou. Hein. Non, il y a des évolutions plus ou moins linéaires, on va dire, dans mon entourage. Non, il y a des gens qui vont suivre des directions qui ressemble plus à la mienne, et d'autres pas du tout, mais voilà, hein, c'est la diversité des gens. Je pense que c'est ce qui est difficile aussi, c'est de pas se retrouver dans la position du type qui a découvert la vérité et qui s'enrobe d'une espèce de vertu, d'une supériorité morale. Et donc, passer d'un complexe de supériorité à l'autre, le complexe de supériorité, disons, de la civilisation occidentale qui veut tout dominer, maîtriser, contrôler, à celui qui est opposé à la civilisation occidentale, je dis ça de manière un peu caricaturale, à un gros trait, mais qui veut s'opposer à cette méchante civilisation occidentale et qui est dans le camp du bien et qui, du haut de sa position supérieure, vient porter des jugements qui sont pas très réfléchis, ni très nuancés, ni très efficaces. Donc, j'essaye d'apprendre un petit peu l'humilité, c'est pas facile, et de, comme tout le monde, hein, de naviguer un petit peu sur la corde raide, quoi.
Et du coup, quel regard vous portez aujourd'hui sur le jeune loup de la défense que vous souhaitiez devenir à un moment, en tout cas? Est-ce que vous le regardez avec mansuétude, pitié, mépris?
Déjà, je voulais pas devenir un jeune loup. Hein. J'ai beaucoup suivi les copains, en fait. Hein. C'était beaucoup un choix par défaut, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de jeunes gens qui prennent le chemin, notamment d'une école de commerce, parce que c'est une formation très généraliste où, d'ailleurs, on n'apprend pas grand-chose. Et qui mène à un petit peu tous les secteurs, et évidemment à part les formations très techniques et spécialisées comme la médecine, etc. Mais donc c'est surtout un choix par défaut, ce qui est d'ailleurs est très significatif, en fait, c'est que on n'est pas foutu de trouver une profession, un métier avec du sens. Donc on se dirige là où on a une promesse de sécurité, d'argent. Et concernant moi, je pense que premièrement, quand on est jeune, on n'est pas bien malin. Hein. On n'a pas encore fait l'expérience du monde, et il faut bien faire des erreurs pour apprendre. Donc, il faut pas avoir honte de qui on a été. C'est comme ça. Hein, et je pense que ce qui est important, en revanche, c'est d'essayer de progresser, quoi. C'est essayer de s'améliorer. En permanence.
Donc plutôt avec mansuétude, finalement.
Ouais.
Pour subsister, vous gardez cependant un contact avec le monde de l'entreprise en proposant des stages en atelier de formation à la prise de parole publique auprès d'entreprises, de start-up, de praticiens divers. Comment se déroulent vos rapports avec eux?
Voilà, ça c'est très rare comme activité. Je fais plutôt des animations de type team building, c'est-à-dire...
On ne voit pas vos guillemets à la radio.
Ouais, on ne voit pas les guillemets, mais j'allais traduire cohésion d'équipe. Donc en gros, je fais faire des jeux à des équipes de salariés, en des collaborateurs maintenant, en oubliant les périodes les plus sombres de notre histoire. Donc par exemple, des jeux très bêtes comme des constructions avec des Lego géants, voilà. Et donc, à la fois je suis un peu partagé, parce que bon, c'est mon gagne-pain. C'est une partie de mon gagne-pain, et puis c'est des gens en face, donc j'ai pas spécialement, j'ai rien contre eux, individu par individu, mais bon, parfois ils appartiennent à des entreprises, je me dis je ferais mieux de foutre de la mauvaise humeur et du désespoir, en fait, dans leurs équipes, pour qu'ils quittent au plus vite l'entreprise. Voilà, donc je suis un petit peu clown et animateur du grand capital. Bah oui, hein, je suis pas un saint, je suis pas parfait, et je me nourris pas de gravier, donc voilà une des activités que j'ai trouvées pour gagner ma croûte.
Et vos rapports avec vos clients se déroulent bien? Vous arrivez à vous,
ils sont tout à fait,
abstenir de toute ironie?
Ils sont tout à fait cordiaux. Ayant vécu à Versailles, j'ai pas de problème pour apparaître sous le meilleur jour et faire semblant d'être le gendre idéal.
Et j'ai également vu en consultant les internets et en vous consultant vous, que vous avez publié chez Iggy Éditions un ouvrage sur les figures de style de La Fontaine à Booba. Est-ce que vous auriez des velléités peut-être d'enseignement, vous qui parlez de sens et de rejoindre le service public? Est-ce que c'est quelque chose?
Ouais, alors c'est un livre que j'ai auto-édité pour qu'il soit accessible, parce que quand on passe par un éditeur, hélas, on arrive tout de suite à 15€ avec tous les intermédiaires de l'édition, et je voulais vraiment que ce soit un petit objet qui soit accessible au plus grand nombre. Je dois gagner, je sais pas, quelques centimes par vente, ce qui n'épongera jamais tout le travail qui a été mis dedans. Donc le but, c'est surtout l'accessibilité de l'objet. Et ouais, la transmission, en fait, c'est une espèce de cohérence que je trouve dans mon parcours au fur et à mesure, qu'on parle de théâtre, où on va transmettre des textes, des histoires, à cette activité de journalisme avec le chiffon, où le but est d'essayer de transmettre des informations aux gens, qui me paraît être la première, enfin la condition sine qua non de la liberté, du choix, de l'émancipation en fait. Parce que quand on est mal informé et qu'on est pétri de préconceptions, de préjugés ou d'idées fausses, c'est difficile de faire des choix en son âme et conscience. Donc un de mes chevaux de bataille, c'est par exemple la lutte contre la publicité en ce moment. Parce que on se fait matraquer matin, midi, goûter et soir par des messages absolument, absolument lénifiants, faux, trompeurs, simplificateurs. Et donc, il faut bien qu'il y ait des forces en face pour résister à cette désinformation ou cette espèce de aussi de comment dire de sidération qui est provoqué par la multiplicité des messages qu'on reçoit dans la tronche de plus en plus tous les jours.
Vous avez également un compte Twitter aussi où vous recensez.
Ouais, j'y vais pas trop. Non, je vais plutôt sur LinkedIn, le réseau professionnel, parce que c'est là qu'il y a le plus des troncs de taureaux, comme on dit chez les Québécois, c'est-à-dire de bullshit, de fadaises, de billevesées, de sornettes, c'est-à-dire de bêtises auto-promotionnelles. Et j'essaye de défaire un petit peu toutes ces publicités, toutes ces propagandes commerciales, ces autopromotions, notamment autour des impacts socio-environnementaux cachés des produits, des services. Tout simplement parce que moi, ça m'agace. On nous prend vraiment pour des demeurés. Et donc, au-delà d'informer les gens, c'est aussi que j'ai envie de gueuler, quoi, comme un gaulois réfractaire moyen, en disant « Mon coco, arrête de te foutre de notre tronche deux minutes, c'est complètement faux ce que tu racontes, quoi. Ça n'a absolument aucune espèce de cohérence avec la réalité, quoi. » Voilà, c'est aussi bête que ça. Et donc, mais c'est quand même un apprentissage, puisqu'il faut apprendre à ne pas mettre des emojis, des émoticônes vomis, ou voilà, et essayer de structurer un petit peu une réponse. Ne pas céder aux pulsions et aux réflexes qui sont le principe même des réseaux sociaux et de l'audimat aujourd'hui. Hein. On essaye d'avoir les accroches les plus clivantes, comme on dit, les plus putassières, pour générer le réflexe et un maximum de réactions bien primaires et surnager dans la grande fosse sceptique qui est notre paysage médiatique, quoi.
Et vous qui avez travaillé un moment dans la pub à vendre des tables basses à 20 000 euros, est-ce qu'il vous arrive des fois d'être cynique et de vous dire « Ah, bien joué, tel slogan
Non.
De reconnaître quand même un certain talent
Non, parce qu'en fait, comme je les ai fréquentés, alors il y a des gens qui sont tout à fait normaux, hein, qui sont arrivés là un peu par hasard, dans la publicité, mais sinon globalement c'est des espèces d'artistes ratés où moi j'ai quand même passé un entretien d'embauche chez BETC, pour ne pas les citer, donc une grande agence de publicité française, avec un type qui me pose une question, je réponds comme je peux, et il me dit non mais attends, je t'arrête tout de suite, en fait je sais pas préciser mais je déteste les cons. Alors là, c'est une attaque qu'on est obligé un petit peu de prendre personnellement, quoi. Puis il continue après, et il me dit, non mais parce qu'ici, en fait, c'est l'endroit de France où il y a le plus de gens brillants au mètre carré. Voilà, donc il y a aussi une espèce de suffisance chez le publicitaire qu'on voit très bien dans le personnage de 99 francs Oscar Parango, qui est entre le mec qui se croit créatif et qu'en fait qui est au bout de la chaîne alimentaire parce que il fait que répondre aux exigences de ses clients et vendre des yaourts ou des couches pour adultes, et puis chez BETC une mentalité un petit peu élitiste qu'on trouve dans chez les cadres sup, et donc j'avoue que c'est un peu mesquin de ma part, peut-être un peu revanchard, mais pas mal de mépris, parce que je considère que une accroche publicitaire c'est quand même un peu moins intéressant artistiquement qu'un opéra avec 15 instruments, hein, ou qu'un tableau. C'est vendre n'importe quoi. Je veux dire, c'est des vendeurs de savon, quoi. C'est des vendeurs de yaourt. Donc.
Et du coup, à 36 ans, vous auriez pu être propriétaire d'un parc immobilier incroyable et vous voilà bénévole au chiffon. Avant cet article, on va y revenir juste après la respiration musicale, mais est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui vous ont intéressé, que vous avez peut-être découvert par l'entremise du chiffon? C'est un petit peu l'effet que ça procure, en tout cas chez certains, d'être contraint de découvrir un thème et ensuite de plonger dedans et de ne plus qu'il ne vous quitte plus.
J'ai beaucoup aimé le numéro qu'on a fait sur les déchets. Parce que c'est comme l'article sur la forêt, il y a beaucoup de choses qu'on ignore, beaucoup de choses cachées sur les implications de la manière dont on vit, qu'on découvre en menant l'enquête. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on ouvre toujours nos dossiers avec une petite enquête historique, ou un petit résumé historique, ce que j'ai essayé de faire là pour la forêt. Qui permet véritablement d'avoir du recul, parce que on est plongé, nous, dans un temps, et même notre enfance, on a du mal à s'en souvenir, hein. Si on compare l'avant-internet et l'après-internet, c'est déjà très difficile de s'en souvenir, et comme il y a de moins en moins justement de transmission intergénérationnelle dans notre société, je pense que c'est très important de regarder des témoignages historiques de comment c'était avant. Autrement, c'est très difficile de ne pas être prisonnier du présent et limite de l'instant d'après, puisque dans cette société, on est déjà dans l'attente du prochain truc, la prochaine notification, etc., dans une espèce d'instantanéitude qui n'est même pas le moment présent. Et l'enquête historique, elle permet justement de comparer et de prendre du recul, et la distance... critique suffisante avec le présent. Donc j'avais appris plein de choses sur ce dossier sur les déchets, mais c'est le cas à chaque fois, en fait. Le problème, c'est surtout après de tenir juste en une page ou en deux pages toutes les choses qu'on a découvertes et de devoir choisir ce qu'on met dans l'article.
Donc, un temps plus long, l'intergénérationnalité qui nous est très chère au chiffon, avec quasiment 4 générations. Nous arrivons au thème de votre article dans un instant, mais avant ça, respirons un instant en musique avant de reprendre la déambulation vers la clairière avec une fin de réveil en douceur, un hymne à une chaude mélancolie et accessoirement une des plus belles chansons françaises. J'ai nommé « Les feuilles mortes » par Monsieur Montand.
Des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte. Dans la nuit froide de l'oubli, tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants.
Et vous êtes toujours sur Radio Libertaire pour l'émission qui donne voix au seul journal indépendant de Paris et sa banlieue, Le Chiffon. Après Monsieur Montand, toujours en compagnie de Valentin, auteur d'un article conte sur la forêt de Fontainebleau et d'une interview dans notre dernier numéro spécial dédié à la forêt, pour un journal papier, remercier son élément matriciel coulé de source. Valentin, qu'est-ce qui vous a poussé à quitter votre 15e arrondissement pour Fontainebleau, qui est la forêt à partir de laquelle vous avez démarré votre article ?
C'est la plus grande forêt d'Île-de-France et je me suis dit que quand même il fallait un lieu et un objet un petit peu concret pour l'article. Donc j'ai essayé de faire un résumé historique de l'histoire des forêts en France, en Île-de-France, qui se passe, ou disons, où la forêt de Fontainebleau est en arrière-champ, à travers une espèce de parodie de conte de Perrault, en prenant le point de vue d'un petit citadin qui connaît absolument rien à la forêt. Tiens, toute ressemblance avec l'auteur de l'article n'est pas fortuite. Et qui se persuade que, après avoir visionné un tuto sur les champignons comestibles, il est capable de vivre en autonomie dans la forêt de Fontainebleau. Et puis évidemment, il mange pas le bon champignon, donc il va avoir une espèce de vision d'un espèce de grand sanglier magique qui va lui raconter l'histoire des forêts françaises, de la forêt de Fontainebleau. Et en fait, l'idée, c'est de défaire un petit peu les mythes et les idées reçues qu'on a sur la forêt quand on est un citadin francilien moyen. Comme je n'y connais rien, hein, vous l'avez compris, à cette forêt, mais en fait à la campagne, à tout espace pas vraiment, enfin moins artificialisé que Paris et sa banlieue, il faut bien que je m'appuie sur des connaissances de gens qui, eux, ont travaillé le sujet. Donc c'est un article qui s'appuie surtout sur un bouquin de l'historienne Martine Chalvet, qui s'intitule sobrement « Une histoire de la forêt » et qui synthétise d'autres travaux historiques sur le thème. Et voilà, ouais.
Vous souhaitiez nous lire quelque chose ? Est-ce que c'est le moment opportun ou...
oh bah, lire, pas forcément, mais je pense que on peut, on pourra citer deux ou trois choses comme ça qu'on
voit l'index sur le livre. Et alors, je vous citer une autre historienne. Un petit fait marquant que vous relevez : la forêt de Fontainebleau portait un autre nom et était pâturée jusqu'à la Première Guerre mondiale, d'après André Corvol que vous citez. Est-ce que vous auriez d'autres d'autres leçons que vous auriez apprises à livrer à l'auditeur pour regarder différemment cette forêt de Fontainebleau? Nous sommes en Île-de-France, diffusée en Île-de-France.
Oui, alors j'ai cité Martine Chalvet, il faut aussi citer André Corvol, qui est une historienne vraiment spécialisée dans les forêts, dans l'histoire des forêts, et qui, oui, citait ce fait-là qu'on ignore totalement, parce que nous, on imagine la forêt de Fontainebleau comme un espace de balade, comme une réserve naturelle dans laquelle on va promener son chien, quoi. Alors, ce que André Corvol raconte très bien, c'est que la forêt a toujours été exploitée, depuis qu'elle est là sur le territoire français, par des sociétés humaines, exploitée et parfois même habitée. Donc, c'est pas du tout un espace désert dédié à la balade. C'est une forêt ressource vitale, une forêt nourricière. Et ça, ça a duré jusqu'à très très peu de temps, puisque, donc, comme elle le disait, on avait des bovins qui pâturaient dans les clairières et les landes de la forêt de Fontainebleau. Je crois que le point culminant de ces animaux qui venaient paître dans les clairières et les landes, ou comme les porcs mangeaient les glands dans la forêt, c'était au XVIIIe siècle. Donc la forêt, en fait, a été un élément absolument primordial dans la subsistance des paysans, y compris la forêt de Bière, puisque c'était le nom de la forêt de Fontainebleau avant. Cet espace n'avait absolument rien à voir dans les relations que tissaient les sociétés avec elle, par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. La forêt balade, la forêt touristique, la forêt réserve, dans laquelle même on accepte même plus de voir des gens de l'ONF couper du bois. C'est vraiment une grosse différence.
Et d'ailleurs, j'avais annoncé en intro que nous reparlerions de romantisme, et vous dénoncez un élément qui est assez cocasse. Ce que vous appelez le tournant romantique anti-industriel qui se développe chez les urbains fin 19e, vous évoquez une mythification d'une nature totalement idéalisée que l'on souhaite protéger pour conserver l'émerveillement des promeneurs en mal de nature vous évoquez une sensibilité nouvelle des urbains pour cette nature un peu idéalisée. Est-ce que vous avez d'abord fait partie de ces promeneurs romantiques, et est-ce que vous pouvez un peu expliquer à l'auditeur ce que c'est que ce tournant ?
Alors, première chose, c'est pas moi qui le dis, hein. Je ne fais que paraphraser ou d'ailleurs citer Martine Chalvet, l'historienne que j'ai mentionnée tout à l'heure. Oui, tout à fait. Je pense qu'on est quand même très nombreux à s'imaginer que la forêt est un espace de balade, que les campagnes sont un espace de balade dans lequel le citadin étouffé par l'artificiel, la pollution, etc., le stress, vient se ressourcer, quoi. Un petit côté Center Parks. Je ne sais pas si on a le droit de citer des marques. Enfin bon. Je pense que cette vision-là est largement partagée dans la population française, spécialement après la Seconde Guerre mondiale, où de manière officielle, les forêts, on a assigné aux forêts une fonction récréative. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une construction qui a été faite largement par des élites urbaines à partir du 19e siècle, notamment à Fontainebleau, où il y a eu des aménagements touristiques après le combat des fameux peintres de Barbizon pour protéger leurs amis feuillus. Donc là, on est dans les années 1830, je crois. Et puis ça a continué après avec Victor Hugo, avec Georges Sand. Enfin, il y a plein d'artistes qui ont alerté la presse parisienne, qui ont même fait du zadisme. Hein. Ils ont arraché des plans de résineux, etc. Et suite à cette résistance-là, pour protéger le paysage pittoresque, qui vient de picturesque, donc le tableau, donc là c'est tout à fait littéral, c'est pour préserver ces paysages qui ont été quasiment sanctifiés par les peintres de Barbizon, on va aussi développer des sentiers, des aménagements touristiques dans la forêt de Fontainebleau. Mais tout ça est très très récent. Jusqu'alors, la forêt, c'était surtout un espace avec des ressources vivrières ou à exploiter.
Vous iriez jusqu'à dire aujourd'hui que l'aspect récréatif du lien à la nature serait exclusif de toute écologie sincère ? Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là ? Peut-être pas.
Non, je crois pas. Je pense qu'il y a un véritable mal-être dans les espaces hautement artificialisés et pollués et surpeuplés que sont les villes, comme l'Île-de-France. Je veux dire, l'Île-de-France, c'est très densément peuplé. C'est très artificialisé. Et si on prend... Si on prend des chiffres qui ont été établis de la portion de verdure pour chaque habitant d'Île-de-France, c'est très très faible par rapport au reste de la France ou par rapport à d'autres régions du monde. Donc effectivement, il y a un réel manque, je pense, physiologique et physique de nature. Même si ce mot est à prendre avec des pincettes, parce que souvent on voit n'importe quel morceau de verdure, n'importe quel coin de verdure comme la nature, alors que ce sont souvent des espaces qui ont été tout à fait aménagés, créés par l'homme.
Un peu à l'image de la ferme de Marie-Antoinette dans votre ville natale, qui n'a
ouais.
pas de ferme que le nom.
Bah voilà, ça c'est une construction très très romantique, et notamment de plus de la paysannerie que de la nature.
Et ça passerait aussi par donc un réapprentissage d'un amour sincère de la nature. Vous déploriez le fait que la forêt ne soit pas du tout, alors pardon pour le formuler comme ça, mais ne soit pas enseignée à l'école, ou en tout cas les élèves ne soient pas sensibilisés. Est-ce que... Un petit mot là-dessus.
Alors, je pense que ce qu'il faut dire, effectivement, c'est bien d'emmener n'importe qui dans des espaces... un peu moins artificialisé. Après, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que toutes les forêts ne se valent pas. Une plantation d'arbres destinée à être exploitée, alors qui plus est avec des coupes rases, quand c'est véritablement très, très intensif et la monoculture intensive, ça n'a rien à voir avec une forêt qui a poussé relativement naturellement ou avec un peu d'accompagnement de l'homme. Et qui a des arbres d'âge et d'essence très variés. Une richesse naturelle en termes d'espèces de flore et animales ou de champignons, etc. Beaucoup plus riche. Ça n'a absolument rien à voir. Donc il y a des niveaux de naturalité dans les forêts qu'on a beaucoup de mal à appréhender aujourd'hui, parce qu'en fait, dès qu'on voit un arbre, on a l'impression que c'est une forêt vierge. Hein. C'est vraiment l'exemple de ces forêts urbaines. Hein, l'oxymore qu'aime bien Anne Hidalgo. Mais il n'y a pas de forêt urbaine. Je veux dire, c'est pas...
Des plantations d'arbres.
Bah, non mais alors là c'est l'exemple ultime, c'est-à-dire on va planter quelques arbustes très resserrés place sur un rond-point place de Catalogne et ce serait une forêt. Non, c'est pas une forêt, non, c'est un rond-point sur lequel on a planté quelques arbres. Et ensuite il y a une grosse différence entre des milieux très divers et qui ont poussé assez naturellement. Et puis des champs d'arbres Parce que c'est ça, hein, une plantation de résineux espacée de temps et qui ont tous le même âge, la même essence et qui sont très 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 pauvres en biodiversité, ça n'a rien à voir. Donc on a l'impression, par exemple, peu de gens savent que le couvert forestier français n'a fait qu'augmenter, qui continue à augmenter depuis la fin du 19e siècle.
Quand vous dites couvert, c'est la surface.
La surface boisée en France n'a fait qu'augmenter depuis la fin du 19e siècle. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que, premièrement, ça vient de la fin de la paysannerie, parce que les forêts se réinstallent ou poussent dans les espaces que l'homme a abandonnés. Donc il y a la fin de la paysannerie, la déprise agricole, et on le voit avec la crise qu'on traverse aujourd'hui de l'agriculture, la population active paysanne ou agricole est de plus en plus réduite. On mécanise, on utilise de plus en plus de chimie, et tout ça fait qu'il y a de moins en moins de paysans, et donc c'est aussi que les campagnes se vident. Si la forêt regagne sa place, enfin, recouvre petit à petit de plus en plus d'espace, c'est aussi que les campagnes se vident. On le voit d'ailleurs, c'est dit dans le bouquin de Nicolas Legendre, Silence dans les campagnes, que les agriculteurs, sur leurs gros tracteurs, dans leurs énormes propriétés agricoles, hein, de plus en plus grandes, avec de plus en plus d'hectares, se retrouvent tout seuls sur leurs tracteurs au milieu de leurs champs. Les campagnes se vident. Donc ça, c'est pas forcément un bon signe de vitalité du territoire, en fait, que la forêt regagne recouvre l'espace. Et puis il y a aussi évidemment la qualité de cette forêt sur le plan de la biodiversité, de sa beauté, des services écosystémiques qu'elle peut rendre, puisque une plantation qu'on va installer à la place d'un champ qui a été vendu n'a pas du tout les mêmes qualités qu'une forêt naturelle qui s'est réinstallée, qui a poussé toute seule.
Donc l'opposition plantation et forêt pour inspirer nos auditeurs. Et vous m'aviez écrit un petit mot en déplorant le fait que vous ne pourriez reconnaître que 4 ou 5 essences d'arbres, le double de marques de voitures et peut-être le quintuple d'enseignes de grandes industries. Est-ce que vous diriez que votre article est né de cette frustration de n'être qu'un urbain sans connaissance?
C'est sûr que le vide de connaissance est énorme. C'est un gouffre. Et effectivement, je prends cet exemple. Il y a plein d'études qui ont été menées aux États-Unis ou en Europe sur le nombre de logos que les enfants sont capables de reconnaître ou des choses comme ça. C'est sans commune mesure avec le nombre d'arbres qu'ils sont capables de reconnaître, ou de plantes, ou d'animaux, ou d'autres espèces.
Ou même reconnaître Ronald McDonald avant Jésus-Christ. Oui,
oui, voilà. Entendu. Non, mais donc on est capable de reconnaître des modèles de voitures qui certes rendent des services, mais qui brûlent des fossiles et nous condamnent à un futur de plus en plus dur. En revanche, on n'est pas capable de reconnaître des espèces d'arbres par la photosynthèse ou d'autres qualités nous rendent des milliards de services. À commencer par la beauté supérieure, je trouve, d'une forêt par rapport à un parking. Et donc ça hélas, c'est, il y a une perte de connaissances, de savoir et de savoir-faire qui subsiste encore dans les campagnes, mais dans la ville, on est de plus en plus dépendant de nos artifices. On est dans l'ère de l'intelligence artificielle, où maintenant même l'intelligence on la délègue à la machine, quoi.
Et peut-être pour donner envie à de futurs journalistes en herbe de nous rejoindre, est-ce que, je peux vous poser une question un peu hyperbolique, mais est-ce que travailler sur cet article a ouvert en vous quelque chose? Est-ce que vous allez peut-être devenir un néo-rural demain, ou en tout cas vous continuer à reconnaître, à apprendre plus?
Ça fait un petit moment que j'ai envie de quitter Paris, mais après il faut faire très attention aussi à la tendance à idéaliser la nature, avec tout ce que ça peut représenter de différent, ou la campagne. Je pense que quand on a vécu en ville, on est beaucoup moins débrouillard. Et puis surtout, on a développé, en fonction du temps qu'on a passé en ville, des dépendances à cet environnement-là. L'humain, il est très adaptable. Comme les enfants, ils sont capables d'apprendre plein de langues différentes. Et on s'adapte à notre environnement, à notre socialisation. Et quand on a vécu en ville la majorité de sa vie, c'est très compliqué de se défaire des dépendances, de ce mode de vie, de ces habitudes qu'on a, ne serait-ce que la densité de population. Je connais des gens qui sont effrayés par le calme de la nature, qui sont effrayés par la nature, les petites bêtes, etc. Ils détestent la nature, véritablement, parce que ils vivent dans un environnement qui est hautement artificialisé et ils se sentent perdu ou si on caricature, c'est, je sais plus dans quel film, Louis de Funès qui retourne à la ville et se précipite sur un pot d'échappement qui respire à plein poumon parce que ça lui manquait. Mais il y a véritablement ça, c'est que on est pétri physiquement, psychologiquement de notre mode de vie urbain, et c'est très difficile à lâcher. Même en dehors de la simple subsistance ou de la débrouille, hein, vraiment, c'est une, je pense, une comme toutes les habitudes, il faut pratiquement autant de temps pour s'en défaire que ça a mis de temps à s'installer. Donc oui, mais ça se fait pas du jour au lendemain.
Alors le cœur de votre enquête, hein, vous avez signé une enquête et une interview. Est-ce que vous pouvez présenter Hervé Le Boulaire ou Le Boulet, je ne sais pas.
Le Boulaire. Alors Hervé Le Boulaire, c'est un forestier qui est conseiller pour le domaine de Chantilly et qui donc s'attelle, disons, au diagnostic sanitaire des arbres qui sont présents dans cette forêt. Et je l'ai interviewé parce que ce qu'il nous dit est extrêmement alarmant, et je pense que c'est peut-être là aussi quelque chose que tout le monde ne sait pas bien, mais le changement climatique est déjà là depuis des années et il fait des ravages, y compris en Île-de-France. Alors là, on est à la frontière avec l'Oise, mais il y a un bouc en Île-de-France, on s'en fout. Enfin, en tout cas, les forêts qui sont très proches de nous souffrent extrêmement avec les effets du changement climatique.
Oui, notamment, vous évoquez le déficit hydrique comme une nouveauté absolue dans ce coin-là, qui amène les insectes à pulluler. Les insectes qui ne devraient pas être en si grand nombre mangent les racines, contribuent à tasser les sols. Est-ce que vous pouvez...
Et ouais, en fait, la chaleur et la sécheresse montant, les essences d'arbres qui sont habituées à nos climats tempérés, sont en grande difficulté. Et alors ces nouvelles conditions climatiques peuvent favoriser les hannetons, par exemple, dont les larves pullulent et mangent les racines des arbres. Et en fait, tous ces effets vont se cumuler et font que la majorité des arbres sont en très mauvaise santé à Chantilly, ce qui amène les forestiers à imaginer une aide à la forêt pour s'adapter à ce changement qui est hyper rapide, puisque les arbres se sont déjà adaptés à des changements climatiques naturels par le passé. La différence avec aujourd'hui le changement climatique provoqué par l'homme, c'est qu'il est extrêmement rapide. Et déjà, c'est difficile pour des animaux qui peuvent voler, comme les oiseaux, par exemple, de s'adapter, ou les animaux qui peuvent se déplacer. Alors, imaginez les arbres qui se déplacent très lentement, puisqu'ils se déplacent avec leurs graines, qui sont soit qui tombent, ou qui sont portées par le vent, ou par les animaux. Ils se déplacent très très lentement. Et donc, l'idée d'Hervé Le Boulaire et puis de pas mal de chercheurs et de forestiers, c'est d'accompagner cette migration qui se fait naturellement des arbres au rythme des changements climatiques, et de faire remonter des essences de chênes, disons des variétés des individus de chênes qui sont déjà adaptés à un climat plus chaud et sec dans la forêt de Chantilly.
Des chênes qui viendraient notamment du Maghreb, de ce que je voyais. Un questionnement qui pointe du doigt, hein, qu'on retrouve dans cette interview que vous signez, c'est ce questionnement de savoir s'il vaut mieux laisser les descendants des chênes en place sans savoir s'ils vont survivre au réchauffement climatique ou trouver d'autres espèces adaptées. Et vous pointez un problème important en disant qu'il n'y a pas de réponse là-dessus. Et il y a le danger que si les jeunes chênes dépérissent, on perd 15 ou 20 ans de développement de la forêt. Et cette prise de décision aujourd'hui de savoir s'il faut laisser les jeunes chênes vivre ou en trouver d'autres, reste sans réponse. Est-ce que vous...
Et ben là, les forestiers sont dans une... pas forcément une impasse, mais ils sont dans une incertitude qu'on peut pas résoudre. Parce qu'ils ont eu l'habitude d'observer les effets de leurs actions ou les effets de changement, mais pas ça. Pas le rythme du changement climatique aujourd'hui et ses effets qui se cumulent et accélèrent. Donc, ils sont dans l'incertitude. Est-ce qu'on laisse les chênes qui sont en place se reproduire et on fait tout notre possible pour qu'ils soient le moins stressés possible avec le rythme, avec le risque que ces espèces se retrouvent, n'arrivent pas à s'adapter. Les jeunes arbres, toutes les pousses ou les jeunes arbres crèvent, en fait, parce qu'elles n'arrivent pas à s'adapter, parce que l'adaptation se fait sur des temps plus longs d'habitude. Et là, elles n'ont pas le temps de lancer des nouvelles recettes génétiques pour tenter de s'adapter par la sélection, etc. Et dans ce cas-là, eh bien, on va se retrouver avec la régénération naturelle qui ne marche pas, et donc une forêt qui crève. Ou est-ce qu'on on ramène les cousins les plus proches de ces arbres? Et alors là, ils ont conduit des analyses génétiques pour trouver les arbres qui à la fois ressemblent le plus aux chênes qui sont déjà à Chantilly, sur le plan extérieur, hein, le phénotype, et puis sur le plan intérieur, le génotype. Donc c'est vraiment des cousins très proches, quoi. Pour accélérer ce que la nature aurait fait naturellement, c'est-à-dire que les arbres, après par exemple la dernière glaciation il y a 20 000 ans, avec la température qui se réchauffait, l'humidité qui montait, les arbres sont remontés du sud vers le nord naturellement, mais ça s'est fait à un rythme très lent. Donc ce mouvement-là qui se fait naturellement, il ne pourra pas se faire vu l'accélération qu'on a jamais vue dans l'histoire de la Terre, du changement climatique. D'habitude, ça se fait sur ce genre de changement, ça se fait sur 10 000 ans. Là, on parle de 200 ans. Donc, c'est impossible quasi impossible pour les arbres, avec le rythme d'adaptation qui est le leur, de s'adapter. Okay. Et donc, on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Quel niveau de régénération naturelle on laisse faire? Quelle part et quel cousin on amène pour essayer de garder une forêt vivante et en bonne santé qui sera apte à faire face au choc de chaleur, de sécheresse, etc. dans le futur proche? Et donc, pour les forestiers, ça n'a plus rien à voir avec l'activité classique historique du forestier où on savait à peu près les effets qu'on allait produire par notre action, parce que il y avait pas ces bouleversements. Et donc là, ils sont dans une incertitude et ils vont essayer de prendre les décisions de manière collective avec l'ensemble des habitants sur le territoire, parce que c'est des décisions assez compliquées et qui ne seront acceptées que s'il y a un vrai dialogue avec tout le monde.
vous introduisez très bien une question que je voulais un petit peu plus optimiste. Nous arrivons à bientôt à la fin de cette émission. Vous relatez le fait que promeneurs, chasseurs, militants anti-chasse, scientifiques et forestiers arrivent à discuter ensemble. Ce n'est pas si courant de voir rassembler une faune qui ne pense pas la même chose, on en parlait en début d'émission. Est-ce que vous avez peut-être assisté à une de ces réunions? Est-ce que vous en avez entendu, en tout cas les...
Non, j'y ai pas assisté. J'ai vu des témoignages de personnes qui, d'écolos, qui entre guillemets, hein, qui se retrouvent face à un chasseur qui leur explique comment les chasseurs pratiquent de manière variée à ce qu'on appelle la régulation, c'est-à-dire qu'on
prélever va... des espèces.
Oui, ou prélever, bon voilà, avec ces euphémismes qui cachent les faits, c'est que on est comme il n'y a plus de prédateurs naturels pour le grand gibier dans les forêts, donc que sont le loup, l'ours. Et ben c'est l'homme qui s'en occupe en fait. Et donc bon, ça peut être fait de manière différente, dont on peut discuter. Et donc les différents points de vue, celui du chasseur, celui de l'écolo urbain ou périurbain convaincu, finalement se retrouve. Il y a un espace de discussion qui est créé. Moi, je pense que ça, c'est indispensable, parce que autrement, je ne sais pas ce qu'on essaie de sauver. Hein. Sauver la nature, entre guillemets, sauver la planète, entre guillemets, sans s'occuper de créer un débat, une discussion dans la société. Bon, premièrement, ça ne marchera pas, et puis ça sert à quoi? Il faut absolument qu'on continue tous à se parler, dans la mesure du possible, sinon on va tous finir dans des camps retranchés à se tirer les uns sur les autres. Mais non, mais c'est déjà le cas. Je pense qu'il faut saluer quand c'est bien fait et que c'est pas une façade pour faire accepter un projet, parce que c'est souvent le cas sur des aménagements, par exemple la 69 ou des choses comme ça, où on fait semblant d'interroger la population et puis en fait on passe outre. Bon, là c'est pas le cas, c'est un projet qui est mené déjà lentement, avec plusieurs phases de concertation, donc ça n'a rien à voir. Et ça, je pense que c'est indispensable, parce que autrement les décisions et leurs conséquences ne seront pas acceptées, et puis surtout je pense qu'on prend des décisions pas forcément les meilleures quand on n'essaye pas d'associer toutes les composantes de la société à la prise de décision. Donc voilà, il y a un exercice démocratique. Après, j'ai pas fouillé véritablement, donc je voudrais pas m'avancer sur le sujet, mais ça m'a l'air d'être fait correctement à Chantilly.
Et nous arrivons à la fin de cette émission, mais si vous me permettez une dernière question, $1 million, à vous l'ancien d'école de commerce, après un premier chemin de Damas à 25 ans, que souhaitez-vous d'abord pour vous et pour la Terre avant la prochaine décennie?
Je vais rebondir sur ce que je viens de dire. Je pense que un peu plus de compréhension, donc ne pas céder à ses réflexes, et pour revenir sur notre thème, un peu d'humilité, hein, de la racine humus, et se rendre compte que les phénomènes physiques, biologiques dont on dépend sont extrêmement complexes, que l'économie n'est pas la seule dimension humaine, et qu'elle ne doit pas écraser la politique, et que pour que la politique existe, il faut absolument qu'on continue à se parler. Et ce, qu'on ait des visions, des conceptions, même des préjugés radicalement opposés, il faut continuer à se parler, puisque quand on évacue cette possibilité du dialogue et de la compréhension de points de vue divergents, c'est terminé. Là, il n'y a plus de possibilité de projet de société, et on tombe dans la violence et des régimes clairement fascisants.
Bon, bah, vous l'aurez compris ce matin, apprendre à aimer la nature autrement, changer de braquet, oser changer de vie et sortir de schémas de pensée trop rigides. C'était donc l'émission du Chiffon, le seul journal indépendant de Paris et sa banlieue au format papier qui nous est si cher. Une lecture qui s'étale sur 3 mois à lire à son rythme pour décaler le regard sur ce qui sonne parfois trop bien. Pour nous trouver dans toutes les bonnes librairies de l'Est parisien, mais pas seulement, du Sud, du Nord et enfin de la Petite Couronne, la liste exhaustive se trouve sur notre site internet, mais notamment pour en citer d'autres, La Friche dans le 11e, La Plume Vagabonde dans le 10e, à Saint-Denis, à la Biocop, notamment, Dionicop, pardon, ou à la Commune d'Aligre, et j'en passe. Pour le prix d'un demi-Paris-Brest ou d'une part de galette frangipane, vous êtes donc le destinataire de dizaines d'heures de travail condensées en 20 pages. Pour proposer un thème d'enquête, voire pourquoi pas la réaliser vous-même, n'hésitez pas, que vous soyez fabricant de navires médiévaux, sculpteur sur granit, commissaire aux comptes ou disque jockey, vous pourrez enrichir la faune de notre équipe. Vous l'aurez compris ce matin, il était question de dialogue. À la technique, Gary et votre fidèle serviteur Paul et notre flamboyant Valentin, dont vous pourrez rencontrer la plume en vous procurant notre dernier numéro sur les forêts. Nous nous quittons avec un son très particulier, venu cette fois de forêts plus froides du grand nord de l'Europe. Ce groupe norvégien qui choisit l'essence du bois, des percussions qu'il utilise selon le choix d'une rune nordique, vous surprendra assurément. Alors avant d'aller chiner, bruncher ou courir, chers auditeurs franciliens occupés, un dernier tour sur des sentiers perdus avec le groupe Wardruna sur un morceau baptisé Dagr.
On a vu
des jours qui nous rappellent.
On a vu,
on a vu ce qu'on a vu. Je te fais la courte échelle.
Si tu vois
des rires à l'appel.
Si tu vois pas
je te sors la grande échelle.
Si tu vois
que la vie est si belle.
Vois-tu pas
que tu marches sur elle.
Si tu vois
tu vois qu'on s'en sommeille.
Dis-le-moi, dis-le-moi.
Dis-le-moi car je m'endors des fois.
C'est tout vu, c'est tout vu.
On n'était pas pareil. Tu gardes les séquelles.
Et si c'est vu, c'est tout vu.
Y'a quelqu'un qui m'appelle.
Et on verra ce qu'on a vu.
On boira ce qu'on a vu.
Et on chantera ce qu'on a cru.
On croira ce qu'on chantera.
Eh hey, mon cul, eh hey, mon cul.
L'as-tu vu, l'as-tu vu.
L'as-tu vu, l'as-tu vu.
J'ai vu tu heal nous vous heal.
Sono le 22:30. Radio Libertaire. Radio Libertaire, c'est le 89.4 sur la bande FM sur Paris. C'est en DAB+, le multiplex
9A.
Et sur internet, radio-libertaire.org, anarchiste.info et Radio Libertaire, Mixcloud. Voilà, ça c'est fait. bonsoir, bonne nuit, au revoir. The Poznan Radio Show, Radio Libertaire.
Oh oui,
terre.
Voici le vent, ça, voilà, c'est...
Bye.
Radio Libertaire.